15h, 12h30, samedi, tout est possible sur Canal FM.
La deuxième partie de samedi, tout est possible. Oui, il est midi. Vous êtes avec nous sur Canal FM. On est ensemble jusqu'à 12h30 avec notre invité, Christian Bataille, le député de la 12e circonscription. Bonjour, Christian Bataille.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à nos côtés jusqu'à 12h30 et je vous propose de commencer avec nous par commenter l'actu de la semaine dans la revue de presse.
Samedi, tout est possible. La revue de presse. On décortique l'actu et on la commente.
Eh bien, j'ai choisi d'évoquer une grande partie des sujets locaux avec le député. Eh bien, on commence par une manifestation. Manifestation des salariés d'Akers, de Vallorec et quelques-uns même d'Areva qui ont manifesté jeudi à Valenciennes. Ils sont clairs, ils réclament la suspension notamment des différents plans sociaux parmi lesquels ils sont concernés. Ils ont eu le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Valenciennes. Christian Bataille, pour votre part, vous avez déjà interpellé le gouvernement et notamment Emmanuel Macron, que ce soit pour Vallorec et Akers. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui encore leur dire pour les soutenir, en tout cas ces salariés?
Oui, j'ai fait plus qu'interpeller Emmanuel Macron. J'ai participé avec d'autres élus à plusieurs réunions à Bercy, au ministère de l'Industrie, et aussi avec le patronat de Vallourec pour essayer de rechercher une solution. Deux Vallourec sont en fait... en piste, si je puis dire, Saint-Solve et Aulnois, avec des effets différents. Les effets sur l'emploi seront très lourdement ressentis, je le crains, à Saint-Solve, un peu moins à Aulnois, qui est plus paré dans la spécialisation de ses fabrications. Il appartient au patron, M. Crouzet, de définir des solutions, mais quand on regarde bien les choses, ce n'est pas seulement la baisse du prix du pétrole, la baisse des commandes mondiales de tubes dont Vallourec est le spécialiste, c'est aussi la mondialisation et le transfert des commandes de Vallourec même en direction d'autres unités, et notamment du Brésil. Hein, Monsieur Crouzet a convenu au ministère de l'Industrie que les Brésiliens fabriquaient pour 30% moins cher et par conséquent les Européens, les Français et les Allemands sont évidemment déstabilisés. Et je pense qu'il y a probablement pour l'avenir à rechercher des solutions dans les fabrications plus spécialisées que celles que font les Brésiliens. L'industrie européenne doit se spécialiser et notamment se spécialiser aussi dans les aciers parce que, on ne peut pas allonger trop le débat, mais il y a aussi la concurrence chinoise sur l'acier. Les Chinois déversent sur l'Europe de l'acier à bas prix qu'ils ne consomment pas eux-mêmes et qui nous mettent en difficulté.
Très bien. Autre fait cette semaine dans notre région, protocole d'accord de fin de grève. Et ça, c'était hier soir. Pas de licenciement pour la polyclinique de la Thiérache à Huigneuil. 5 jours de grève. La DRH a fait maintenant des propositions qui semblent plus acceptables pour les salariés, Olivier.
Oui, tout à fait, oui. 3% effectivement sur leur prime d'assiduité. Ils pourront même négocier les 5 jours de grève, hein, d'ailleurs, on avait vu ça. Et le soutien, enfin, comme quoi qu'il n'y aura pas de licenciement, en tout cas au sein de cette polyclinique.
C'est le plus important, notamment. Voilà, ça veut dire donc pas de licenciement, en tout cas, les concernant. Ça me fait plutôt drôle, en tout cas, de voir encore que, sur notre région, on a encore quand même certaines fois des grèves, en tout cas, qui peuvent aboutir à des arrangements.
C'est bien. Là, surtout qu'il faut savoir que c'est un comité d'entreprise qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Hein, ça a été repris en septembre 2015. Ce comité, c'est un jeune comité d'entreprise qui a osé effectivement dénoncer certaines choses. Ils avaient déjà gagné au prud'homal pour cette histoire de prime qui avait été enlevée. Aujourd'hui, ce personnel du comité d'entreprise a réussi effectivement à faire pression, mais en fait à mettre les choses simplement que il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le maintien de l'emploi et de vivre décemment, quoi, en tout cas.
Très bien. Autre fait d'actualité, une vidéo de 4 minutes 30. Et oui, cette cette semaine a montré la cruauté envers les animaux dans un abattoir bio situé dans le Gard. Des images publiées 4 mois après le scandale de l'abattoir d'Alès, dans le même département. C'est l'association L214 qui l'a donc dévoilé. Dans cette vidéo, on y voit très clairement, grâce à une caméra cachée, des moutons qui sont jetés dans des couloirs où eux refusent de se rendre. Ouais. Un employé rire en électrocutant des cochons. Enfin.
Ouais, ouais. Alors moi, je vais te dire un truc sur cette vidéo. Je suis tout à fait. C'est scandaleux, clairement. Voilà, on traite pas les animaux comme ça, etc. Moi, ce qui me dérange, en-delà du fait d'être scandalisé par comment on traite ces animaux-là, oui. C'est le message de l'association, oui. Qui, au final, le message dit. Ne mangez pas de viande, soyez végétarien. Il faut le savoir. Et voilà. C'est ça qui me dérange. En fait, c'est pas le fait qu'on. On peut effectivement être scandalisé et c'est honteux, effectivement, de pas prendre soin des animaux, etc., sur les abattages, etc., dans les abattoirs. Mais quelque part derrière, de retrouver à la fin de cette vidéo-là, de dire, bah, voyez, pourquoi il faut être végétarien, manger végétarien, je trouve que c'est deux combats tout à fait différents et il faut pas se tromper de choses.
Oui, on est tous responsables. On mange des animaux. Donc, bon, effectivement, il faut les tuer. Mais par contre, les maltraiter, ça, je suis pas pour.
Bien sûr, donc, bien sûr, on est tous.
Donc,
bien sûr.
Effectivement, le combat est totalement différent. Mais maintenant, les végétariens, ils mangent du poisson. Donc, oui. Ces poissons-là, ils vont être aussi maltraités.
Mais tu vois ce que tu comprends bien la différence.
Que le message, en tout cas, de l'association, le premier message porté, n'est pas celui. En tout cas, c'est pas celui qui a interpellé les gens.
Ouais,
voilà.
C'est pas
ce qui a interpellé les personnes, c'est surtout la maltraitance des animaux.
Exactement.
Et ça, c'est quand même plutôt bien. Et c'est donc la chanteuse du groupe Lilywood and the Prick qui a donc appelé à signer cette pétition. Allez, dans quelques instants, on revient avec notre invité. Christian Bataille, ça sera pour son interview Vérité en face à face à Olivier.
Tous les vendredis, retrouvez vos journaux L'Observateur, La Sambre et Le Courrier de Fourmi et les informations qui vous intéressent. À chacun son style, à chacun sa lecture. Les rendez-vous sportifs, les sorties du week-end, la vie de nos villes et nos villages. Les hebdos vous racontent votre quotidien. L'Observateur, La Sambre et Le Courrier de Fourmi, disponibles tous les vendredis chez votre marchand de journaux. Dites, ça vous dirait de guincher ? À la nouvelle guinguette de Neuvilly, Anne-Sophie et Laurent sont heureux de vous accueillir chaque week-end. Repas dansant ou juste pour danser ? Venez vous détendre à la nouvelle guinguette de Neuvilly entre le Cateau et Solène. 03 27 84 00 53.
Week-end chargé avec une soirée années 80 le samedi 27 février et DJ Gaëtan aux manettes. Dimanche 28 février, c'est l'orchestre Claude Caron.
Laura est scotchée sur son portable. Laura est scotchée sur son portable et ne parle à personne. Laura est scotchée sur son portable et ne parle à personne d'autre que Vincent, qu'elle vient de rencontrer sur l'appli Mythique. Rencontrez des gens autour de vous avec l'appli Mythique. Téléchargez-la gratuitement.
Mythique. Bonjour, qu'est-ce qu'il prend ?
Bonjour, un sandwich jambon beurre, s'il vous plaît.
Ah, le jambon, c'est en supplément.
Ah, bon, d'accord, des tartines de beurre, alors.
Ah, le beurre aussi, c'est en supplément.
Et juste du pain ?
Eh ben voilà, on y arrive.
En ce moment, profitez d'une offre sans supplément sur la Golf Edition 5 portée 610 chevaux à 230€ par mois. Avec radio Bluetooth tactile, aide au stationnement, jantes 15 pouces, climatisation et régulateur de vitesse inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km sans apport et sans condition de reprise sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Volkswagen.fr.
TF1.
The Voice, cette nouvelle saison va vous laisser sans voix. Les coachs Zazie, Florent Pagny, Mika et Garo sont prêts. The Voice, ce soir à 20h55 sur TF1, en association avec les Indes Radio.
Canal FM. 11h-12h30, détente, humour, divertissement, parce que samedi, tout est possible.
Allez, avec vous sur Canal FM jusque 12h30 et avec notre invité Christian Bataille, le député de la 12e circonscription, qu'on retrouve en interview face à face avec Olivier.
Samedi, tout est possible. L'interview vérité. Olivier Urbain.
Christian Bataille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né le 13 mai 1946 à Rieux en Cambrésis. Vous avez 69 ans. Le moins qu'on le puisse dire, c'est que lorsque on se penche un peu sur votre bio, on constate que votre parcours politique, c'est une vieille histoire qui a commencé en 77. Vous avez alors 31 ans. Vous avez été élu maire de Rieux en Cambrésis. Auparavant, vous étiez même d'ailleurs professeur de lettres. En 79, vous décidez de vous engager au niveau régional. Et à partir de cet engagement politique, eh ben, il est total. Conseiller régional, vice-président du conseil régional, c'était donc en 86 jusqu'en 98. 98-2004, conseiller régional. Et depuis le 13 juin 1988, député du Nord. Le reproche qu'on pourrait vous faire, c'est d'avoir fait de votre carrière de la politique. Mais à contrario, depuis 2004, vous avez un mandat unique. Pourquoi ce choix d'avoir fait un seul et unique mandat ?
Ça m'occupe à plein temps et très largement. Je m'étonne toujours de voir certains de mes collègues être maire de grande ville ou président d'un conseil général, d'un conseil régional. On ne peut pas, quand on est parlementaire, avoir d'autres responsabilités importantes. Le mandat parlementaire m'occupe à plein temps, dans la semaine, naturellement, à l'Assemblée, et le week-end parmi vous. Je viens de terminer le mois de janvier. J'ai 103 communes dans la 12e circonscription du Nord. J'ai rencontré la population à l'occasion des fêtes de vœux. Et en d'autres périodes, il y a d'autres occasions, je suis occupé dans ma permanence par des rendez-vous, par l'accueil de délégations, par des manifestations ou des fêtes, comme on disait. Et donc, le mandat parlementaire, si on occupe le terrain, est un mandat à plein temps, évidemment.
Donc, vous n'êtes pas pour le cumul des mandats, clairement.
Non.
Mais c'est bien aussi, quelque part, d'avoir aussi un pied dans, je veux dire, en étant, par exemple, on pourrait être maire, par exemple, d'une commune,
oui.
Ou en tout pour garder quand même une réalité, un pied dans la réalité, non je, ou pas, vous n'êtes pas.
J'avais été dans ce cas-là avant. Hein. Et c'est vrai que c'est un enracinement qu'il faut retrouver autrement. Mais on peut le retrouver.
On
autrement.
Peut le retrouver avec vos permanences que vous faites.
J'ai deux secrétariats, un dans le Cambrésis, un ici à Aulnoy, dans l'Avesnois. Et j'ai aussi le contact avec la population. Ça, le contact avec la population
vous
est
avez à le préserver.
Il n'y a que les députés de grandes villes ou de Paris qui s'en fichent.
D'accord.
Hein, ils passent leur temps à l'Assemblée et le week-end, ils se reposent.
D'accord. Christian Bataille, vous êtes l'auteur de plusieurs rapports sur l'énergie nucléaire, contestés par les opposants, mais soutenus par les partisans de cette énergie. D'ailleurs, vous êtes également pour l'exploitation du gaz de houille. Vous avez des opposants, même dans votre famille politique, par rapport à ça. Est-ce que c'est encore un de vos chevals de bataille ? Excusez-moi.
Oui. Je suis pour l'industrie, de manière générale. Tout à l'heure, on évoquait la crise des entreprises industrielles, Vallourec, Akers, Areva, l'Avesnois, la Sambre, ont vécu et doivent continuer à vivre de l'industrie. Mais vivre de l'industrie, cela veut dire qu'on ne répugne pas devant un certain nombre de dossiers. Ce n'est pas la transition énergétique et les éoliennes qui vont nous répondre à nos besoins en énergie. C'est un appoint. Mais l'essentiel doit être pourvu par des énergies plus massives, l'énergie électrique, nucléaire, ou bien les énergies fossiles par les nouvelles techniques qu'on appelle les énergies non conventionnelles. Je suis allé aux États-Unis voir. Les États-Unis ont changé la donne mondiale de l'énergie. Parce qu'ils avaient la volonté d'aller chercher profondément du gaz et du pétrole. On en a du pétrole en France, sous le bassin parisien. Mais les Parisiens veulent bien des terris dans le Nord ou en Lorraine, mais ils ne veulent pas chez eux ou dans leur région d'exploitation. Et puis il y a du gaz dans le sud de la France. Le Nord, j'avais dans mon rapport proposé qu'on revoit la possibilité d'extraire le gaz dans les anciennes mines de charbon. Il y a la possibilité d'avoir une partie de gaz qu'on appelle le gaz de couche.
Je terminerai par cette question. Un sondage vient de révéler, qui vient de tomber, que 7 Français sur 10 pensent que le Parti Socialiste risque d'imploser. Quel est votre avis ? Vous, ça fait quand même plus de 40 ans que vous êtes dedans.
Oui, je ne le souhaite pas. J'ai mon opinion assez tranché. Je soutiens le gouvernement de Manuel Valls. Je trouve que ce gouvernement, même s'il est critiqué, travaille bien. Et d'autres sont dans la dissidence. Hein, je suis très choqué de la manière dont certains, il n'y en a que très peu dans le Nord-Pas-de-Calais, mais de la manière dont certains se comportent. Ils sont à peine élus. qu'ils votent contre le gouvernement.
Vous parlez de qui alors, par exemple ?
Je pense à...
Aubry qui vient de faire son réquisitoire un peu.
Martine Aubry, c'est pas une parlementaire.
Oui, hein, mais bon.
Martine Aubry...
C'est quand même un des poids lourds du Parti
Martine
Socialiste.
Aubry a son analyse particulière. Moi, j'ai toujours soutenu Martine Aubry. Je résume. On a besoin au Parti Socialiste de Manuel Valls, on a besoin de Martine Aubry. On a besoin des deux, on n'a pas besoin qu'ils s'affrontent. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mmh. Hein, disons, la mauvaise humeur entre Manuel Valls et Martine Aubry. Mais il faut arrêter ça, parce que sinon, la gauche va
avoir des idées différentes, etc., mais travailler ensemble.
Bien sûr, sinon, je vous le répète, la gauche va à la catastrophe. L'effet régional Nord-Picardie se répétera au moment des présidentielles.
Merci Christian Bataille.
Merci à tous les deux. Christian Bataille, bien entendu, vous restez avec nous. Petite pause musicale, on revient juste après. Réforme du travail, loi de gauche. On se posera cette question avec vous, crise agricole en plein salon de l'agriculture, juste après la musique de Madcon. A tout de suite.
Samedi, tout est possible. L'invité de la semaine.
Christian Bataille, le député de la 12e circonscription du Nord, est avec nous jusqu'à 12h30. Alors, la réforme du travail, portée par la ministre du Travail, Myriel M. Khomri, n'est pas une loi de gauche. C'est les propos de certaines personnes, les propos aussi de Martine Aubry, on en parlait tout à l'heure. Christian Bataille, vous allez vous positionner comment par rapport à cette réforme ?
On fait beaucoup de commentaires sur un texte qui n'est pas connu. Qui ne sera véritablement, dont on connaîtra vraiment les contours, qu'après le Conseil des ministres de début mars. Hein, pour l'instant, il y a des commentaires, des prises de position sur un texte qui reste pour l'instant un peu entre parenthèses.
Oui, mais il y a quand même des petites choses qui sortent. On parle des indemnités prud'homales, la durée légale du travail.
Je pense qu'il faudra juger à la sortie. Le texte va être proposé par le Conseil des ministres. Et puis ensuite, moi, je souhaite qu'il y ait un dialogue avec les organisations syndicales, que l'on tienne compte des remarques qui sont faites, et puis qu'ensuite, le Parlement joue tout son rôle. Je suis persuadé que les traits les plus choquants seront atténués. Hein. La réforme du Code du travail, il n'y a que les conservateurs qui disent qu'il ne faut pas y toucher. La réforme du Code du travail est nécessaire, et c'est le rôle du gouvernement de réformer. Nous sommes un gouvernement social-démocrate, et nous sommes un gouvernement qui doit réformer.
14 mois,
le Code du travail, vous le connaissez ?
Oui, il est énorme. C'est ça que
voilà,
vous
pourrez faire un quiz là-dessus. Combien pèse le Code du travail ? Combien de pages, etc.
C'est énorme. Et c'est pas un risque, 14 mois avant l'élection présidentielle, de s'attaquer à ça ? Et je laisse la parole à Olivier.
On aurait pu le faire avant, ça je suis d'accord.
Alors justement, la réforme du travail, dès qu'on touche à ça, effectivement, les syndicats, tout le monde s'en mêle. En son temps, Helmut Kohl, en Allemagne, lorsqu'il a réformé le Code du travail, il a perdu les élections, clairement. Mais on a vu que cette réforme qu'il avait faite, qui n'est pas du tout la même que celle qu'on va mettre en France, ça avait permis quand même de créer de l'emploi les années qui suivent. C'est un peu le risque quand même, justement, parce que par rapport à ce que disait Logan, que finalement la gauche se retrouve un peu isolée.
Il y a un socialiste en Allemagne qui a réformé le Code du travail, c'est Schröder.
Schröder. Mmh.
Schröder a réformé le Code du travail, il a réformé le marché de manière générale. Il avait perdu les élections de peu, je me souviens. Et il s'en était finalement à peu près bien sorti, alors qu'on le disait archi-écrasé. Alors, moi je suis d'accord pour considérer qu'on s'y prend un peu tard, mais de toute façon, c'est le devoir d'un gouvernement de se saisir de ce sujet. Et puis, imaginons, comme tout le monde le dit, que la gauche perde le pouvoir, c'est la droite qui réformera le Code du travail. Donc, il vaut mieux que cette réforme du Code du travail soit faite par des sociodémocrates, à condition, je le répète, que le dialogue s'instaure, que ce ne soit pas un diktat du gouvernement, mais qu'il y ait une proposition ouverte aux propositions des organisations syndicales et puis des parlementaires.
En matière de lutte contre le chômage, la moitié des Français pensent que Martine Aubry ne ferait ni mieux ni moins que François Hollande actuellement. Qu'en pensez-vous ?
Martine Aubry avait instauré dans le gouvernement Jospin les 35 heures, qui sont très controversées. Hein, mais le bilan des 35 heures avait quand même été quelques centaines de milliers d'emplois. Hein, il y avait, Martine Aubry a un bilan, elle a fait des choses. Hein, aujourd'hui, elle serait dans une situation très très différente. Hein, quand elle a réformé la durée du travail, qu'elle l'a amenée à 35 heures, on était à l'époque sur un climat porteur économiquement. Aujourd'hui, on est sur une crise qui touche toute l'Europe et la France en particulier. On est dans un contexte plus tendu. Je crois qu'il faut rendre leur chance aux entreprises qui veulent de l'activité et qui veulent créer des emplois.
Mais il y a justement des économistes qui disent que justement le partage du temps de travail, c'est-à-dire baisser le temps de travail, permettra aussi d'embaucher. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement ?
Ben, je l'ai défendu en son temps. Je ne vais pas aujourd'hui considérer que c'est mauvais. Mais il faut peut-être donner plus de souplesse au système. Hein, les 35 heures, oui, mais il faut peut-être un peu assouplir le système. On ne va pas entamer un débat, mais c'est un peu comme le problème de l'ouverture du dimanche.
Oui. Hein,
c'est mauvais si c'est généralisé, mais c'est peut-être bien de permettre à un certain nombre de le faire.
Très bien. On revient dans quelques instants avec Christian Bataille. Place au débrief de l'actu, mon cher Bernie.
Lundi.
Dans le cadre de la visite de François Hollande à Tahiti, la mairie de Papeete a demandé à ses sans-abri de quitter provisoirement le centre-ville. Il va falloir m'expliquer comment on demande à un SDF de rentrer chez lui.
Mardi.
Le géant américain du prêt-à-porter, Tommy Hilfiger, lance une ligne dédiée aux enfants avec un handicap. Je trouve ça un peu maladroit de proposer de couvrir un moignon avec des vêtements qui coûtent un bras.
Mercredi.
Les chiffres sont tombés, le nombre de demandeurs d'emploi recule de 0,8% par rapport à décembre. Ne nous réjouissons pas. Le mois prochain, les ministres au chômage suite au remaniement vont faire grimper les stats.
Jeudi.
On apprend que l'homme d'affaires Bernard Tapie s'est vu retirer son permis après avoir été contrôlé à 185 km/h au lieu de 130 km/h. 185 km/h. À cette vitesse, c'est un vrai tapis de course.
Vendredi.
Dernier préparatif avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Rappelons que ce sera l'occasion pour Stéphane Le Foll de recevoir son César du meilleur acteur pour son rôle dans 50 nuances de crise.
Allez, on revient juste après la pub, à tout de suite.
Samedi, tout est possible.
Reviens après la pub.
Adieu les pervenches et vos petits papillons. Adieu, toi le camion poubelle qui bloque ma rue chaque matin. Adieu le marteau-piqueur, tu peux maintenant continuer à marteau-piquer, ça ne me fait plus rien. Adieu, voiture en double fil, pigeon, caniche. Adieu, toi le guitariste, qui est aussi mon voisin du dessus. Je vous dis tous, adieu.
Pendant les temps Ford, préparez-vous à quitter la ville et bénéficiez d'un crédit auto Ford exceptionnel sur le nouveau Ford EcoSport à partir de 14 990 euros. Offre valable jusqu'au 29 février, voire Ford.fr.
Le grand jeu Monopoly continue chez Intermarché. Venez jouer et gagner des voyages, des bons d'achat de 500 euros et des millions d'autres cadeaux en faisant vos courses.
Et jusqu'au 6 mars, pour un produit acheté, un produit offert sur une sélection de produits.
Oui, un produit offert. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Règlement du jeu et magasins participants sur intermarché.com.
Tous les vendredis, retrouvez vos journaux L'Observateur, La Sambre et Le Courrier de Fourmi et les informations qui vous intéressent. À chacun son style, à chacun sa lecture. Les rendez-vous sportifs, les sorties du week-end, la vie de nos villes et nos villages, les hebdos vous racontent votre quotidien. L'Observateur, La Sambre et Le Courrier de Fourmi, disponibles tous les vendredis chez votre marchand de journaux.
Intersport.
Je suis une femme et je le proclame. Fitness, muscu, running, yoga. Oui, le sport, moi j'adore ça. Girl power!
Les femmes sportives sont à l'honneur chez Intersport. Dès le 24 février, les chaussures Skechers Flex Appeal, Obvious Choice ou Pretty sont à 39,99€ au lieu de 69,99€, soit 42% de réduction.
Intersport, le sport commence ici!
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr.
Dis, tu me trouves comment ?
Comment ? Bah bien, enfin...
Je serai beaucoup plus sexy dans le nouveau Samsung Galaxy S5.
Celui avec l'écran Full HD ?
Oui. Alors emmène-moi chez Bouygues Télécom.
Et il est à combien ton Samsung Galaxy S5 ?
Il revient à 1€.
Ah bah c'est d'accord.
C'est vraiment un chic type.
On aime tous la technologie. Pendant les jours TechNow de Bouygues Télécom, profitez du meilleur de la technologie au meilleur prix. Et en ce moment, 10€ de réduction sur les forfaits sensations à partir de 3Go pendant 6 mois. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 24 mois, offre soumise à condition.
11h-12h30, on retrouve Logan et toute sa fine équipe dans Samedi Tout est Possible.
Avec notre invité politique Christian Bataille, le député de la 12e circonscription est à nos côtés. Alors, salon de l'agriculture, Christian Bataille, ce matin François Hollande a été sifflé, hué, et bien oui, notamment par les éleveurs. C'est une grande crise actuellement au niveau agricole. Pourquoi on ne trouve pas de solution en France ?
C'est la crise de l'élevage d'ailleurs, hein. Vous noterez que... les céréaliers ou bien encore les producteurs de betteraves ne sont pas en crise. C'était une bonne année pour eux. Je connais les deux cas puisque je suis élu d'une circonscription où il y a l'élevage en plein, les cultures de plein champ céréales betteraves et puis sur l'autre partie l'élevage à travers les pâturages. Alors les agriculteurs ont applaudi. Il y a un an et demi, à la sortie des quotas laitiers. Et il réclame aujourd'hui un retour à une réglementation. Moi, j'ai toujours défendu la réglementation des prix agricoles qui, aujourd'hui, est rendue compliquée, difficile, à cause du contexte européen. Parce que, effectivement, il y a une ouverture à des produits de moindre qualité que l'élevage traditionnel, que la production laitière, qui arrive sur le marché à des prix plus bas, et ça provoque la crise. Les produits locaux ne sont plus garantis d'écoulement. Et il faut revenir à des mesures, mais alors il faut revenir à des politiques nationales, des mesures d'encadrement et des mesures de prix garantis. Quand le Front populaire a été élu, en 1936, une de ses premières mesures a été l'office du blé. Les agriculteurs de l'époque crevaient la gueule ouverte parce que le blé leur étaient achetés pour rien. Et ensuite, nous avons eu des offices par produit, et je crois qu'il faut aujourd'hui revenir, mais il faudra s'affronter à l'Europe, il faut revenir à des mesures qui apportent des prix garantis. Il faut que les éleveurs et les laitiers soient payés pour leur travail.
Oui, hein, justement, vous dites qu'il faut s'affronter à l'Europe, c'est un peu justement ce qu'il faudrait faire, parce que quand l'Europe, on sait que par exemple en Pologne, on peut produire deux fois plus, on va avoir par exemple, il y avait un très bel exemple en disant aujourd'hui un éleveur en Pologne peut élever 650 vaches par exemple, produits laitiers, tous les bénéfices, il y a un quota. Et au-delà de tout ce qui est bénéfice, il est pour lui. Il n'est pas, justement, et c'est un produit qui, donc, c'est ce qui inonde, enfin, c'est ce qui inonde le marché aussi.
Nous sommes désavantagés parce que la France est un pays de production familiale, de petite production. Vous citez l'exemple de la Pologne. Pourquoi ? Parce que c'est la prolongation du système communiste, bien sûr, si je puis dire. Ce sont des fermes d'État qui ont été privatisées. Et donc, ce sont des fermes énormes qui, face auxquelles les exploitations familiales de l'Avesnois, pour prendre cet exemple, ne sont pas compétitives. Donc il faut protéger.
Oui, mais pendant des années, on leur a demandé de faire des mises aux normes, on leur a demandé un minimum de, d'élevage, etc. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000, enfin, il y a 60 000 producteurs, on demande à baisser. L'État a bien évoqué qu'elle était prête. Il faudrait pratiquement avoir des fermes-usines.
Les producteurs ont déjà fait beaucoup d'efforts. Hein.
Beaucoup.
Je connais bien la profession agricole. Mmh. J'ai des agriculteurs dans ma famille. Hein.
Moi aussi.
et comment dire, ils ont déjà fait beaucoup d'efforts de modernisation, par exemple pour la production laitière, etc. Mais ils n'ont pas l'effet de taille que peut avoir.
Mais peut-être à cause aussi des charges.
Une ex-ferme d'État en Pologne. Hein. Les charges. Nous sommes dans un pays où il y a des conquêtes sociales qu'il faut conserver. Nous n'allons pas nous aligner sur le modèle polonais ou le modèle portugais. Alors, là, c'est eux qui doivent s'élever sur notre...
Petite chose aussi, Christian Bataille, c'est à la fois on dit que c'est aussi des questions qui doivent se gérer au niveau européen. Pourquoi les Anglais, je prends l'exemple du Brexit, sont capables de mettre carte sur table, de menacer et de dire clairement, si on n'a pas ce qu'on veut, eh bien, on quitte l'Europe. Pourquoi la France n'arrive pas à avoir, je ne dirais pas de mettre cette menace en cours, mais en tout cas, de très clairement mettre un moyen de pression sur l'Europe.
Les Anglais n'ont jamais été vraiment dans l'Europe. Hein. D'ailleurs...
c'est la vraie question, ça.
Les électeurs anglais vont peut-être décider d'en sortir au mois de juin. La France est en Europe. Elle est au cœur de l'Europe. Il y a l'Allemagne, il y a le Benelux autour. Elle doit, avec l'Allemagne, taper sur la table et demander à ce qu'on maintienne la priorité de la politique agricole. La politique agricole commune a longtemps été la première politique européenne. Et puis, c'est l'arrivée d'autres pays venus de l'Est qui ont changé la donne. Ce sont des pays de droite. Hein, je vous laisse méditer ce paradoxe. Tous les pays de l'Est, les anciens pays communistes, sont aujourd'hui gouvernés par la droite, sans exception. La Pologne, la Hongrie, et on peut tous les citer. Et ils pèsent sur la politique européenne dans un sens libéral. Les Polonais veulent une politique de droite pour l'Europe. Et donc la France, qui a un gouvernement de gauche, est bien isolée dans ce contexte européen. L'Allemagne est assez modéré. Finalement, Mme Merkel a un positionnement plutôt centriste, hein, elle est alliée aux sociodémocrates dans son gouvernement. Mais quand vous allez en Hongrie ou en Pologne, là, vous avez pratiquement des Le Pen au pouvoir. Hein, et puis, je ne parle pas de la Russie. Hein, avec Poutine, il faut méditer cet exemple. Je pense qu'on a perdu beaucoup en intégrant trop rapidement des pays de l'Est. On a pensé qu'ils allaient connaître la liberté en Europe. Ben non, ils ont remplacé des dictatures de gauche par des dictatures de droite.
Gilles Pargnaud le disait d'ailleurs il y a une quinzaine de jours quand il était venu dans la région, que justement l'Europe comme elle est là aujourd'hui ne pourra pas fonctionner tant qu'elle ne sera pas fiscale et tant qu'elle ne sera pas sociale.
Oui,
vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, mais l'Europe moi je suis européen, mais je ne suis pas d'accord pour sacrifier à l'Europe la politique sociale. Hein, ce n'est pas au nom de l'Europe qu'on renonce aux conquêtes sociales. Par conséquent, je crois que la France, effectivement, doit, mais pas sur les mêmes options que l'Angleterre, dire nous voulons maintenir un certain nombre d'avancées sociales, ou bien alors, on demande une Europe à la carte, hein, il en est beaucoup question aujourd'hui.
C'est un peu ça, oui.
Hein, je pense que pour les pays que j'ai cités, les pays de l'Est de l'Europe, il faudrait qu'ils soient dans l'Europe, mais un peu sur la pointe des pieds, parce que, pour tout dire, ils nous emmerdent. Hein.
Très bien, c'est clair. Vous avez été clair là-dessus, Christian Bataille. Dernière petite question, on va revenir sur les hackers de Berlaymont, du fait. On en a parlé un petit peu dans la revue de presse. Vous, vous êtes positionné. Vous avez interpellé le ministre par rapport à hackers à Berlaymont. La suite ?
Hackers Berlaymont, c'est 100 emplois en jeu. Et je crois que la meilleure solution... C'est celle que soutiennent les syndicats, la proposition de reprise qui est faite par l'actuel directeur de Berlaymont, M. Soulia, qui propose de reprendre conjointement Berlaymont et Thionville. Il appartient au tribunal de le décider et, bien entendu, au gouvernement, au ministère, à Emmanuel Macron, à qui je me suis adressé, que je côtoie assez fréquemment, de peser dans ce sens. Et puis, il faut, c'est un semi-engagement qu'a fait le nouveau président de région, en tout cas, qu'il garantisse l'emprunt nécessaire, je crois qu'il faut 8 millions. Hein. Mmh. Donc, il faut que la région Nord-Picardie et la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, qui est la région de Thionville, il faut que ces deux régions bien garantissent conjointement la somme nécessaire pour la reprise. Je pense qu'aujourd'hui, on est 50-50. Hein. Il y a un risque que tout s'arrête et il y a aussi un risque que ça redémarre. Hein. Je crois que le rôle des élus, comme moi et comme d'autres, c'est de peser et de peser auprès des pouvoirs publics et auprès des autorités, des banques, pour qu'on retrouve une solution de sortie pour sauver, je pense, une centaine d'emplois à Hackers.
Très bien, merci. Christian Bataille, ultime dernière question. J'aimerais juste avoir un oui ou un non. Est-ce que vous êtes favorable à la primaire de gauche pour le Parti Socialiste, dont notamment, on revient les mêmes noms, Christian Paul, Martine Aubry ou encore Daniel Cohn-Bendit sont notamment à l'initiative. Est-ce que vous, vous êtes pour actuellement ?
Et Daniel Cohn-Bendit n'est pas socialiste.
Non, tout à fait. Des primaires à gauche, donc je pense qu'il va s'unir.
On a l'expérience d'une primaire réussie, la fois dernière. Nous sommes dans un contexte différent. Le président de la République en place est François Hollande. Je pense que si François Hollande est candidat, on ne peut pas faire une primaire à gauche.
Très bien.
On va affaiblir notre candidat. Par contre, s'il n'est pas candidat, la primaire s'impose.
Merci, Christian Bataille, d'avoir été à nos côtés ce midi. La suite, mon cher Alex.
De la musique avec JB à la réalisation. Merci pour cette émission. Cette émission est réécoutable en replay sur le site canalfm.fr. La journée n'est pas finie. N'oubliez pas le samedi.
Tout est possible.